Oui, de retour, encore une belle demi-heure à passer avec vous, amateurs de sport ce soir. Soir de match, alors ça sent le hockey, le match aux environs de 21h, l'avant-match à 20h30 tout à l'heure avec Martin McGuire, que nous retrouvons à l'instant même du côté d'Edmonton, où il fait 4 degrés en ce moment, c'est plus chaud qu'à Montréal, où on est à moins 3. Bonsoir, rebonsoir Martin.
Rebonsoir. Quand même, Mario, tu sais qu'on est déjà venu faire la première classique hivernale ici.
Ouf!
C'était un 22 novembre. Il avait fait moins 33 degrés Celsius le matin du match.
Comme l'aurait dit Mario Lemieux ou Michel Baudry dans la voix de Mario Lemieux, c'était quelque chose.
C'était quelque chose. Mais effectivement, on a une température très agréable. Alors, je ne sais pas si on aura un match agréable, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Claude Julien a décidé de donner un deuxième départ d'affilée au gardien Antti Niemi. Faudrait s'attendre probablement à voir Carey Price à Calgary jeudi ou assurément probablement chez lui à Vancouver. Samedi, voici les explications de l'entraîneur du Canadien.
C'est Antti Niemi ce soir, puis on va de l'avant. Puis la seule chose que je peux te dire, c'est que dans ce voyage-ci, on va avoir besoin de nos gardiens, qui inclut Carey Price, qui est notre gardien numéro un.
Alors, Mario, c'est un duel de gardiens finlandais ce soir, puisque l'auxiliaire des Oilers d'Edmonton, Mikko Koskinen, sera aussi devant le filet de l'autre côté. Un géant de 6 pieds 7 pouces. Il est grand longtemps, je peux te le dire. Chez le Canadien, il n'y a pas de changement sur les 4 trios d'attaque. Ce sont les mêmes que lors du dernier match. On va donner congé à Carl Osner et Xavier Ouellet ce soir. C'est le retour de Noah Jolson aux côtés de Mike Riley. Schlemko a été muté à la gauche de Petrie. On verra Mété et Ben sur le troisième duo de défenseurs, Mario.
Excellent, Martin. Alors, c'est une petite période d'échauffement avant que tu entames ton avant-match officiellement dans 24 minutes ou 23 minutes ou à peu près. Merci beaucoup, Martin. Et nous retrouvons à l'instant même, il ne devait pas être bien, bien loin sur la passerelle ou dans la cabine de diffusion de Edmonton du magazine L'Athlétique sur le web que je consulte régulièrement maintenant depuis quelques semaines. Et nous retrouvons Marc-Antoine Godin. Bonsoir Marc-Antoine.
Bonsoir Mario.
Dans l'explication de Claude Julien sur le choix d'Antti Niemi ce soir, est-ce que tu sens que... C'est sûr qu'il réitère que, bon, Carey Price est leur gardien numéro un. Le contrat en fait foi. Mais est-ce que tu sens également sa volonté de nous envoyer le message qu'il va gérer selon les besoins de l'équipe, comme il l'a fait avec Osner et Plekanec il y a quelques semaines?
Bien, les besoins de l'équipe, mais les besoins aussi de...
Du joueur.
De Price, absolument.
Oui, oui,
je pense
oui.
Je pense qu'il faut adopter une vision à long terme par rapport à ça, puis pas regarder, avoir le nez trop collé sur l'arbre.
Mm-hmm.
Tu sais... Si Niemi fait bien ce soir, il n'y a aucune raison pourquoi on lui donnerait pas un autre match à Calgary. Essayer de gagner du temps et de permettre à Price de retrouver tous ses repères puis de renvoyer dans la mêlée, je sais pas, moi, samedi à Vancouver, par exemple.
Mm-hmm.
Et sauf que la minute qu'un athlète dit « ben moi, j'identifie mon problème comme étant principalement un problème au niveau psychologique, c'est pas un problème technique, c'est pas un problème physique », ben c'est pas nécessairement quelque chose qui se règle du jour au lendemain. Mm-hmm. Il faut prendre le temps de pouvoir bien identifier ce que c'est puis travailler à ce que ça se corrige, parce que le Canadien doit, c'est ça, avoir une vision à long terme puis dire, ben au-delà des quelques prochains matchs, au-delà des aléas du calendrier, il faut regarder comment ils peuvent réaligner Carey Price pour qu'il puisse redevenir le gardien qu'il était autrefois, puis dire, bon, ben qu'est-ce qu'il y a de différent en ce moment depuis le début de la saison par rapport à ce que c'était l'année dernière, et comment on peut le ramener dans un état d'esprit qui ressemble à ce qu'il était autrefois. Donc, tu sais, ils sont, tu l'as dit, tu as fait mention de son contrat, ils sont unis avec lui pendant 8 ans, donc ils ont tout intérêt, autant Price que l'équipe, parce que ça marche, et ça sert à rien de bousculer les choses juste pour le compte d'un match ou deux.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, et ça me rappelle les propos d'un skieur de l'équipe masculine de ski au Canada qui nous disait, et là je cherche son nom juste pour mal faire, mais en tout cas il va se reconnaître s'il est à l'écoute, un camarade de Dérégué qui nous disait que dans le fond on prend grand soin des blessures physiques, mais les blessures morales ou en fait les blessures psychologiques, c'est comme, on aimerait ça que tout le monde, tu sais, quand une fracture est guérie, on sent ok, il est prêt dans tant de jours, mais quand on parle de blessures, en tout cas de choses à solutionner par rapport à la confiance, par rapport à la psychologie. Et là, je spécule parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la situation sur laquelle Carey Price s'exprime. Il y a des limites, mais il reste qu'il faut entendre ce qu'il a affirmé. Et c'est pas rien qu'il l'ait affirmé publiquement en plus, parce que disons que dans une ère où des fois l'attitude macho peut l'emporter, c'est pas tout le monde qui va oser affirmé ouvertement qu'il y a un problème de confiance, si c'est ça, là.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que Carey Price est un homme de peu de mots, alors pour qu'il ait pris la peine, sans entrer dans les détails, puis on s'attendra pas à ce qu'il entre dans les détails, mais au moins qu'il ait entrouvert cette porte-là, ça nous indique que c'est... Il y a une franchise, puis une conscience par rapport à... il a bien identifié le problème. Maintenant, je pense que c'est à tout le monde de dire bon ben ça prendra le temps que ça prendra.
Exact.
Si les gens disent ben là Shea Weber il reviendra quand il va être prêt, puis tu sais il voit patiner avec le reste de l'équipe, puis les gens se mettent pas à taper du pied en disant ben là s'il pratique avec l'équipe qu'il revienne au jeu demain, non, on va laisser le temps à Shea Weber de guérir comme il faut. Ben c'est tout à fait la même chose avec Carey Price, même si c'est quelque chose de moins tangible et je te dirais également de plus tabou. Aussi.
Alors,
c'est un tabou dans le sport. Année après année, il y a des journées spéciales qui sont organisées pour commémorer justement pour rappeler aux gens que c'est ça, ceux qui ont des difficultés, des défis au niveau psychologique, c'est bon d'en parler, de le partager. Mais c'est beau de le prêcher, mais en même temps, il faut aussi que les gens qui entendent ces messages-là, qui les reçoivent, soient prêts à les écouter.
Savoir comment réagir et comment les accompagner là-dedans. Je reviens sur le travail sur la glace maintenant, mais toujours en parlant des gardiens de but. Il y a une statistique, peut-être que certains statisticiens, ou peut-être que tu y as accès via tes collègues avec l'athlétique, mais ce qu'on appelle Danny Dubé et moi en parlions, on aimerait bénéficier d'une statistique qui nous donne un pourcentage d'efficacité, mais qui donne le taux de succès d'arrêt dans des situations critiques. Ce qu'on pourrait appeler, excuse-moi l'anglicisme, mais le timely save, l'arrêt au moment opportun. Tu sais, ça se dit tout à fait bien en français de cette façon-là. Parce que, je sais pas si tu seras d'accord, parce que tu sais, dans le match de samedi contre Vegas, on aurait pu penser à un moment donné, tu sais, ça a parti vite, que dire, oh, peut-être que Claude Julien a eu envie d'enlever Anthony Amy puis de ramener Carey Price. Le match n'est pas parti comme on le souhaitait. Combien de buts, je pense, qui ont marqué en première période? Est-ce que c'est 3 samedi? Non, ça, c'est contre Carey Price jeudi, mais en tout cas, tu avoues que l'idée est passée, ça t'est peut-être passé par la tête que Niemi n'allait pas finir le match samedi, mais es-tu d'accord pour dire que Niemi, peu importe comment ça part, il continue de faire le bon arrêt au bon moment et souvent le dernier, ce qu'on appelle l'arrêt au moment opportun?
Oui, absolument. Puis, tu sais, il y a des buts aussi qui ont été marqués contre lui, des déviations contre le patin, des trucs du genre. Que, cela étant dit, le même genre de malchance qui a affligé Carey Price également.
Oui.
Je les mets les deux dans le même panier à ce niveau-là.
Tout à fait.
Mais Antiniemi, moi, me donne l'impression, puis écoute, tu regardes ses statistiques, le 3-30 comme moyenne de but alloué. Pour moi, il y a des matchs où il aura beau avoir donné 4 buts. Effectivement, quand le gros arrêt s'est présenté, il l'a fait. Et il me met en confiance cette année. C'était un gros point d'interrogation en arrivant cette saison, savoir bon, est-ce que son retour en forme de la fin de saison dernière, c'était un feu de paille. Dans le fond, le déclin que d'autres organisations ont vu est bel et bien entamé, puis bel et bien avancé. Mais au contraire, ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est un Niemi qui est en contrôle, qui est beaucoup plus... Qui continue dans son économie de mouvement, qui est plus du tout, tu sais, sa technique qui était complètement là, déconstruite quand il est arrivé à Montréal, ben là il a tout nettoyé ça. Et puis c'est intéressant parce que le Canadien justement est en mesure de se tourner vers un auxiliaire en qui il a confiance, qui va être capable de, comme le veut le cliché, lui donner une chance de gagner à tous les soirs et qui permet également qui permet à Carey Price de prendre son temps également pour revenir. Parce que si jamais il se faisait défoncer à tous les soirs puis qu'il n'y avait aucun auxiliaire digne de confiance, ben là, évidemment, on serait
prêt
à renvoyer Carey Price. On n'aurait pas le choix. Niemi leur donne cette sécurité-là. Puis c'est intéressant parce que pour moi, c'était pas du tout un acquis qu'on allait le revoir dans la même forme que l'année dernière. Donc, en soi, c'est une belle surprise.
Ouais, c'est une position où l'athlète doit souvent prouver, ben en tout cas, où la preuve de ton excellence réside souvent dans ta dernière performance. Hein. T'es aussi bon que ton dernier match, comme le veut le cliché. Et si je t'amenais sur la notion de l'arrêt au moment opportun ou du timely save, c'est qu'un haut dirigeant d'équipe de hockey, qui est toujours à l'emploi d'une équipe de la Ligue nationale et non pas le Canadien de Montréal, nous disait que, et Stephen White nous l'a déjà dit, que le pourcentage d'efficacité des gardiens demeure une statistique intéressante, mais qui ne révèle pas tout, et surtout dans l'ère de plus en plus offensive qu'on vit actuellement, avec des qualités de chance de marquer qui sont différentes. On réussit à faire bouger latéralement les gardiens de but. Alors, c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir cette statistique-là. D'autre part, je veux te parler du fait que Shea Weber, le capitaine, qui a été très actif, très présent, même s'il n'était pas dans l'alignement partant depuis le début de l'année, est sur le point de revenir au jeu. Et là, je veux te faire une comparaison avec Vegas. On ne l'a pas trop dit. J'ai posé la question en début de saison à Claude Julien. Tentez-vous de reproduire un espèce espèce d'effet Vegas. Dans toute la Ligue, je pense que ça a été un outil pour tous les entraîneurs d'utiliser l'exemple de Vegas. Mais à Vegas, quand on regardait l'alignement, c'est des gars de la Ligue nationale qui nous disaient ça. Il n'y avait pas le meilleur défenseur de la Ligue, mais il y en avait 8-10 défenseurs qui étaient capables de jouer dans la Ligue. Avec tout le monde en santé, le Canadien va se retrouver avec un groupe d'au moins 8 défenseurs. Est-ce que tu penses que ça peut devenir un atout, ça, plus la saison va avancer, d'avoir 8 gars qui sont capables, pas tous des joueurs vedettes, on s'entend, mais qui sont capables de jouer dans la Ligue nationale et le retour de Weber, évidemment, sur l'attaque massive, notamment?
Oui, bien, en fait, je pense que si on inclut là-dedans Alzner et Ouellet, je pense qu'avec le retour éventuel de Weber, ça nous donnerait 9 défenseurs de calibre de Ligue nationale. Donc, nécessairement, il y en aurait un qui serait cédé à Laval. Moi, je m'attends à ce que le Canadien, cette année, avec une formation entièrement en santé, garde 8 défenseurs à sa disposition et seulement un attaquant d'extra. Mais le retour de Weber, ce que ça va faire, c'est que, bon, oui, il y a ce qu'il va apporter en termes d'offensive en avantage numérique.
À 5 contre 5 aussi,
surtout dans l'aspect défensif. Mais c'est l'effet domino que ça crée également chez tous les autres défenseurs, en les ramenant dans des rôles qui vont être plus confortables, dans lesquels ils vont être plus confortables, qui vont correspondre plus à ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire de remettre Petrie dans un rôle relié à un deuxième duo. Ça, c'est si Weber revient, le Weber d'antan.
C'est
une grande inconnue.
Point d'interrogation.
Ça fait un an qu'il n'aura pas joué. Il y a plein de joueurs Shea Weber, c'est Shea Weber, il va revenir, puis ça va être instantané. C'est pas un acquis.
Non.
Présumons qu'il redevient le Weber d'antan, ça permet de renvoyer Petrie sur un deuxième duo, réduire ses minutes, réduire les minutes également de Mike Riley et de permettre à des joueurs de soutien de se retrouver sur un troisième duo et à ce moment-là avoir des confrontations beaucoup plus faciles. Alors, en replaçant tout le monde dans la bonne chaise, Weber aide l'équipe de deux manières. Et ça, je pense que c'est déterminant parce que dans la façon dont la ligne bleue est construite cette année, où on y va encore une fois avec la quantité plutôt que la qualité, je dirais ça, Weber, qui est ton meilleur arrière, s'il est là, qui est la pierre d'ancrage de ta défensive, là, au moins, ça te permet à jouer ce jeu de nombre-là à ton avantage, puis faire en sorte que les joueurs qui sont laissés de côté un soir peuvent revenir, dépendant de l'adversaire, au prochain match, puis maintenir la fameuse compétition en interne.
Marc-Antoine, tu me permets de faire une pause et de te ramener dans quelques minutes pour la conclusion de cette conversation. Est-ce que c'est correct par rapport à tes occupations là-bas? OK, parfait, parce que je t'avais pas demandé avant, en dehors des ondes, alors je l'ai fait comme ça. Hein? On revient tout de suite. Marc-Antoine Godin de l'Athlétique qui est avec nous. On revient dans quelques minutes. Journaliste au magazine L'Athlétique, collaborateur aux amateurs de sport, également au reportage des matchs des Canadiens. Marc-Antoine Godin est avec nous. Marc-Antoine, je vais reprendre la discussion exactement où on la laissait par rapport au personnel de défenseurs. Donc, où on compterait, si tout le monde demeure en santé, bien sûr, 9 défenseurs disponibles chez les Canadiens de Montréal avec le retour éventuel d'ici quelques semaines, tout au plus, peut-être même une semaine ou deux chez Weber. On verra bien, mais comment vois-tu la suite des choses? Claude Julien a parlé de compétition, mais de décision également. Qu'est-ce que tu vois comme décision qui pourrait être prise? Qui sont ou qui est le défenseur le plus vulnérable? Dans les possibilités de renvoi sans faire souffrir l'équipe, dans les contrats 200, je pense que seulement Xavier Ouellet. Comment vois-tu la suite des choses?
En fait, les candidats les plus vulnérables sont Victor Mété et Noah Jolson parce que...
Il est encore sur son contrat d'entrée, Jolson.
Exactement. Donc, ces deux-là peuvent être retournés à Laval sans être soumis au ballottage. Tandis que Ouellet, même s'il a un contrat à deux volets, lui, il doit quand même passer par le ballottage. C'est tout simplement que son salaire dans la Ligue nationale, son salaire dans la Ligue américaine ne serait pas le même. Alors, et ça pourrait le rendre intéressant pour une autre formation, surtout celles qui ont vu à l'œuvre le Canadien. Je trouve que Ouellet a quand même donné de bons services depuis le début de la saison. Mais là, pour l'instant, il me semble dans une position vulnérable. La première, à mon avis, la victime la plus évidente, ce serait probablement Jolson ou Mété. Probablement plus Jolson, simplement parce que, entre guillemets, ce sont des victimes faciles à cause de la logistique de la chose.
Mais j'allais te demander sur l'aspect hockey aussi. Ouais. Jolson, je pense que... bon pour lui d'aller jouer dans la Ligue américaine peut-être un peu, non?
Oui, parce que c'est son expérience professionnelle qui est limitée depuis le début de sa carrière. En fait, chez les pros, autant en Ligue américaine que dans la Ligue nationale, il n'y a pas encore 70 matchs.
Non.
Alors, tu sais, rappelons-nous, quand il est arrivé, il a commencé sa première saison pro en retard À Laval, il a joué à peine quoi?
Il y a 36 matchs en Ligue nationale, Marc-Antoine, 36.
Oui, puis il y en a moins que ça avec le Rocket. Alors, il a gradué rapidement.
31 avec le Rocket.
C'est ça. Alors, il est venu en aide rapidement aux Canadiens, mais tu sais, souvent, on dit que pour la majorité des défenseurs, ça prend au moins 200 matchs chez les pros avant de pouvoir s'établir dans la Ligue nationale et puis de pouvoir... pouvoir donner un coup de main à ce niveau-là. Lui, il est quand même encore loin du compte. Cela dit, il a quand même eu de très bons matchs. Moi, je me souviens d'un match contre les Blues de Saint-Louis où il avait été excellent. Cela étant dit, c'est un petit peu plus erratique. J'ai hâte de revoir ce soir. Ça va être un beau défi pour lui d'être confronté d'une part à la vitesse des meilleurs joueurs des Oilers et aussi au côté physique aussi des Oilers et de voir comment il va être capable de balancer la robustesse dont il veut qu'il veut démontrer et puis d'être capable aussi de faire en sorte que quand il fait usage de cette robustesse-là, ça ne le sort pas du jeu. Alors lui, ça m'apparaît comme une victime possible. Ouellet également. Et puis à plus long terme, je dis pas maintenant, mais à plus long terme, je pense que dans les cartes, à un moment donné, je serais pas surpris que Carl Osner aille dans la Ligue américaine.
On verra, oui. Pas de rachat de contrat, mais tout simplement le prêter donc à l'équipe école de Joël Bouchard. C'est un scénario envisageable, parce que ça serait bien surprenant que quelqu'un aille le recueillir. C'est comme si Milan Lucic était soumis au balotage. Penses-tu que quelqu'un le ramasse?
Je sais pas. Écoute, Lucic a beaucoup ralenti, puis c'est un... Tu sais, c'est drôle parce que c'est un contrat qui a été signé en fait au même moment qu'Aldiner, c'est il y a deux ans. Le Canadien avait
l'œil dessus,
de l'intérêt envers Lucic. Et aujourd'hui, c'est bien délicat de se dire lequel des deux on prendrait dans notre équipe avec les contrats qui ont été signés respectivement. Toi, Mario, est-ce que tu préférerais avoir Lucic ou bien avoir Carl Aldiner?
Ben, si tu regardes le contrat, Lucic a une année de plus et il coûte 1,5 à peu près grosso modo de plus par année. Ferais-tu l'échange un contre l'autre?
Non, moi, écoute, c'est drôle, hein, mais j'ai beaucoup de respect pour ce que Lucic a accompli au cours de sa carrière, particulièrement contre les Canadiens dans l'uniforme des Bruins. Mais là où il est rendu, et là surtout là où le hockey est rendu, il me semble être un petit peu un joueur d'hier. Un petit peu comme Osner, ils sont chacun à leur manière un peu victime de la façon dont le hockey évolue. Mais là, tu regardes ça de façon très pragmatique. Effectivement, le contrat, moins d'argent, moins de termes du côté d'Alzner.
Mais moi, dire une chose, c'est sûr que les contrats, tu peux pas en faire fi, mais je serais quand même curieux de leur donner une chance à Lucic dans une autre structure, dans une autre équipe, mais sans le contrat, mais faudrait que les Oilers le rachètent pour ça. Et c'est sur cette note que ça s'achève ce soir, sur ces grandes questions. Marc-Antoine, merci beaucoup. Bon match là-bas.
Merci, toi, de même.
On cède l'antenne à Danny et Martin tout de suite après la pause. Bonne partie, tout le monde. Je vous retrouve demain à 18h30. Ciao.